Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous et merci d'être venus ce soir pour cette nouvelle conférence. Le thème ne sera pas Giacometti, ça sera une autre conférence sur un artiste que vous connaissez tous, il s'agit de James Tissot. Et je voulais remercier tout d'abord Stéphane Guégan d'avoir accepté au dernier moment, ça fait juste 6 jours hein, qu'il le sait, qu'il doit venir à Bordeaux. Et il m'a dit oui pour cette conférence consacrée à James Tissot. Oh.
Vous savez qu'on dit j'aime Tissot.
J'aime Tissot. Alors, c'est vrai qu'il est très aimable, Stéphane Guégan, mais il n'a pas voulu m'accompagner ici. Il préfère rester sur son perchoir.
Vous êtes la vedette.
Je suis la vedette. Alors, faut-il vous présenter, Stéphane? Je vais le faire en 3 mots.
Ah.
Parce que je crois que tout le monde connaît ici.
Hein? Vous m'inquiétez en 3 mots.
Je vais donner les choses les plus essentielles de la vie de Monsieur Stéphane Guégan, qui est il est conseiller. Oui, ben je peux le dire quand même. Il est conseiller scientifique de la présidence du Musée d'Orsay. Il est écrivain, critique d'art. Il est commissaire d'exposition. Il a beaucoup travaillé sur ce sujet de commissariat, aussi bien en France qu'à l'étranger. Et dernièrement, il est co-commissaire de l'exposition, je vous l'avais raconté au mois de novembre dernier, de l'exposition qu'il a partagée avec Daniel Devinck sur Toulouse-Lautrec, éternellement jeune, qui s'est terminée au Grand Palais au mois de janvier. Je vous livre le titre de cette conférence parce que certains ne savent pas qu'il y a eu changement au programme puisque sur Sud-Ouest, on a annoncé Giacometti. Ben, ce n'est pas Giacometti, c'est Peindre les femmes, Tissot entre Degas et Manet. C'est le prélude, justement, à l'exposition que vous pourrez voir bientôt au Musée d'Orsay. Je crois qu'elle ouvrira, d'après ce que m'a dit M. Guégan, si c'est juste, j'en sais rien, le 9 mars prochain.
Qui sait ?
Le combien ?
C'est peut-être ça.
Oui, ben voilà.
Non, je n'en suis pas commissaire. Non, c'est ça.
Non, comme il n'est pas commissaire, il a oublié les dates. Bien. En tout cas, Stéphane, je vous remercie infiniment. Vraiment, c'est très, très aimable d'être venu ce soir parce que notre conférencier invité, il a oublié de venir. Voilà. Merci.
Merci infiniment, Marie-Claire, pour ces paroles chaleureuses. Cette définition en 3 points qui me convient parfaitement. Je crois que Giacometti se serait étranglé à l'idée qu'on le remplaça par James Tissot. C'est un des premiers paradoxes de cette soirée, et je vous assure qu'il y en aura d'autres. Le titre, lui, n'est pas paradoxal. Effectivement, James Tissot a été très proche de Degas et de Manet, notamment avec lequel il a voyagé, j'y reviendrai, à Venise en 1874, quelques semaines après la première exposition impressionniste auquel et Tissot et Manet s'étaient refusés à exposer. La fourchette, au fond, que ce titre dessine, est aussi une manière de rappeler que l'histoire de l'art n'a pas traité Tissot à égalité des deux autres. C'est le grand méconnu de l'histoire de la peinture moderne du XIXe siècle, le grand oublié, et il aura fallu attendre près de 30 ans pour qu'une exposition revienne à lui, à Paris, après San Francisco, puisque c'était le Petit Palais dans les années 1980, pardonnez-moi, qui avait eu l'audace d'organiser une exposition sur Tissot. Je m'en souviens encore, je l'ai vue. Elle nous avait fait comprendre combien nous avions été ingrats à son sujet. D'autant plus que le peintre est plus que séduisant et la vie de l'homme aussi attrayante. Vous allez en juger. Alors, puisque nous sommes dans le paradoxe, puisque je remplace mon ami Thierry Dufresne, qui écrit d'ailleurs en ce moment un livre sur Modigliani, loin de Giacometti, je voudrais débuter par cette confrontation que vous avez sous les yeux. Madame de Senone, l'un des plus beaux portraits qu'Ingres a peint dans l'agonie, si j'ose dire, du Premier Empire, puisque le vicomte de Senone était un fonctionnaire de l'Empire et qu'il avait croisé cette très jolie femme, Marie Marcos, une Lyonnaise, liée d'ailleurs, et c'est très intéressant, au monde de la mode, et le portrait d'Ingres en est bien sûr une preuve, et de sa beauté et de sa coquetterie. Et à droite de cette composition magistrale, le tout dernier tableau, d'une certaine manière, de James Tissot. Tissot a 3 ans à vivre en 1899. Il se procure une photographie de ce tableau qu'il avait croisé dans sa jeunesse nantaise. Je vais y revenir. Et il peint sur photographie, mais aussi, sans doute, dans la mémoire du tableau qu'il connaissait bien, cette réplique sépia, précisément comme une photographie ancienne, mais à la dimension de l'original, et en peinture. Aux portes du grand mystère, et vous comprendrez pourquoi j'emploie cette formule au sujet des dernières années de Tissot, il sent le besoin, comme un tout débutant, comme un artiste qui n'aurait pas fait la carrière qu'il avait déjà faite. Il est à la fin du XIXe siècle un des artistes les plus fameux en Europe. Il sent le besoin de revenir à Ingres, de rendre hommage à l'artiste qui, parmi sans doute d'autres, avait décidé de sa carrière près de 40 ans plus tôt. Je vais devoir allumer cela pour lire de temps en temps mes notes. Merci. Cela ne vous gêne pas ? Bon. Nantes, effectivement, est la ville où il voit le jour en 1836, en pleine monarchie de Juillet. Et comme je l'ai dit, il va disparaître en 1902 à l'âge de 66 ans. 1836, donner un sens à ces dates, 1836, c'est à peu près l'époque où naissent les deux hommes dont je voquerai également la mémoire, Degas, 1834, Manet, 1832. C'est le cadet, au fond, du trio, mais il ira vite, beaucoup plus vite que les deux autres. Et au début des années 1860, quand sans doute il fait la connaissance de Degas, on en a à peu près la certitude, et peut-être même de Manet, il est déjà un artiste plus couru que les deux autres. C'est aîné, en somme. À Nantes, il a, entre autres, croisé Madame de Senone dans ce très beau musée qui vient de réouvrir et qui était riche d'une collection de peintures inouïes, notamment grâce au fond Cacot. Cacot, qui lui aussi est un de ces fonctionnaires de l'Empire qui, profitant de son séjour en Italie, a constitué une collection de tableaux qui s'élève à plus de 1200, 1300. Toute la peinture italienne vibre au musée de Nantes. Mais c'est aussi une cathédrale, c'est aussi des hôtels particuliers, une atmosphère. Et on le sait, et Cyril Siama, mon collègue qui dirige aujourd'hui le musée des impressionnistes à Giverny et qui a longtemps travaillé à Nantes et qui s'est occupé de très près de Tissot, Cyril Siama insiste beaucoup sur cette première empreinte de la ville de Nantes et de ses collections sur ce jeune garçon qui a la chance de naître dans un milieu favorisé, très marqué par la mode. Son père est fabricant de tissus et sa mère dirige une boutique. Une boutique de mode, une boutique de curiosité. Et on peut l'imaginer, tout cela va laisser des traces sur l'imaginaire et l'esthétique du jeune homme. Jeune homme auquel on aurait aimé voir embrasser que l'on aurait aimé voir embrasser une autre carrière que celle de la peinture. D'abord, puisqu'il est le garçon de la famille, le père imagine lui confier plus tard la direction de son entreprise, de sa fabrique, et puis à défaut de le voir embrasser la carrière d'architecte, carrière plus soluble, plus stable, moins étendre pour ses parents, et puis manifestement, les parents sont suffisamment libéraux pour le laisser choisir la voie des pinceaux. Il va, avant de rejoindre l'atelier de Louis Lamotte à Paris, Louis Lamotte c'est un élève de Flandrin et donc le porteur de la leçon d'Ingres, Flandrin étant un des principaux émules d'Ingres, avant de se former à la peinture. On imagine qu'il a croisé avant Paris des professeurs de dessin, voire même de peinture. On lui fait donner, et j'y insiste, et je n'y aurais pas insisté il y a encore quelques années de façon aussi nette, on lui fait donner une éducation très particulière, d'abord très soignée, mais surtout une éducation religieuse. On l'envoie dans des établissements, dans les Flandres, en Franche-Comté, qui est la terre d'origine du père de Tissot, et à Vannes même, dans des établissements donc dirigés par des jésuites. Il a, dès l'enfance, donc, reçu une éducation religieuse qui va, je crois, l'accompagner toute sa vie, et surtout, bien sûr, décider de son dernier moment, le moment où, après avoir découvert la Terre Sainte, à 50 ans, il va réorienter complètement sa peinture. À l'occasion de cette exposition, qui va donc ouvrir au musée d'Orsay dans quelques semaines, mes collègues ont découvert au château de Billon, qui est le château justement paternel en Franche-Comté, toutes sortes de documents qui nous permettent aujourd'hui de préciser la carrière de Tissot, de préciser également cet épisode qui était resté un tout petit peu obscur et qui est lié au siège de Paris et à la Commune, vous verrez que c'est très important, et puis aussi à cette capacité pratiquement de chef d'entreprise qui était celle de Tissot, qui a mené véritablement une carrière commerciale d'une grande efficacité. Je crois que dans l'étude de Tissot, cette exposition marque un tournant. Je passe sur d'autres documents qui viennent d'être exhumés, et véritablement, l'exposition va lever un grand nombre de mystères et nous plonger donc dans tous les aspects de la personnalité et de l'art de Tissot. Avant d'être le peintre de la modernité que Degas voit en lui et qui encouragera Degas à tenter d'attirer Tissot dans les expositions impressionnistes, nous y reviendrons, Tissot a été marqué par deux découvertes. À l'exposition universelle de 1855, la peinture anglaise, souvent moderne de sujet, mais surtout très moderne de forme, ce sont les pré-raphaélites qui oscillent, vous le savez, entre la peinture de la vie présente, et notamment dans sa composante sociale, la plus terrible, et l'évocation du monde du Moyen-Âge, l'évocation qui passe aussi par la reprise des formules de la peinture ancienne. Et puis il y a un autre artiste qui le frappe en 55, lui qui a choisi de rejoindre un atelier ingresque et qui peint d'ailleurs dans le mode ingresque pendant ces années-là. L'autre artiste qui va marquer ses premiers pas et le propulser d'emblée vers les plus grands succès, c'est Henri, on va le prononcer à la française, Henri Leys, peintre dont on a tout oublié de ce côté-là de la frontière, mais qui est resté une célébrité dans les Flandres, et autour de 1855, a acquis lui aussi une grande réputation dans la reconstitution presque archéologique, j'ai envie de dire, du monde de Bruegel, pour aller vite, du monde d'Holbein, du monde de Memling. C'est une sorte de pré-raphaélite flamand tourné vers les sources nordiques et qui, à défaut de peindre le temps présent, réactualise le passé comme si on pouvait le faire revivre. Au fond, ces artistes-là appliquent au XVIe siècle, au XVe et XVIe siècle, le soin méticuleux que la génération troubadour, et Ingres avait été un des acteurs du courant troubadour sous l'Empire, avait introduit dans l'évocation du monde des chevaliers. Le Moyen-Âge a cédé la place à une sorte de Moyen-Âge tardif, de Renaissance, et Tissot a véritablement eu une manière de coup de foudre pour cet artiste qu'il a sans doute d'ailleurs croisé lors d'un voyage, nous le savons maintenant, il est mieux documenté, lors d'un voyage qu'il effectue à la toute fin des années 1850 et qui le mène en Flandre, en Allemagne, et jusque dans la ville Bâle, la ville d'Holbein. Voilà un peu son premier panthéon, son premier musée imaginaire, très tourné vers l'art ancien et vers la peinture nordique. On en a une première preuve avec ce tableau célèbre, acheté, à vrai dire, dès avant le salon de 1861 par l'État, c'est-à-dire l'administration impériale, la rencontre de Faust et Marguerite. C'est un des tableaux c'est un des tableaux qui compose le petit fond Tissot du musée d'Orsay. Et je crois qu'il illustre assez bien ce que je viens de vous dire. Tissot nous arrache au temps présent et nous entraîne dans l'évocation précise, suggestive, colorée, très colorée, du monde ancien. La composition a un autre intérêt, c'est qu'elle conjugue ce goût pour les maîtres anciens avec ce goût littéraire pour Goethe. Il y a chez Tissot des restes de lecture adolescente, il y a chez Tissot une empreinte romantique très, très forte. C'est la première rencontre, vous voyez des jeunes gens un peu timides, c'est Marguerite notamment qui repousse la proposition que vient de lui faire le docteur Faust de lui tenir la main. Elle est vêtue de rose, lui est coiffé de rouge. Les couleurs parlent ici, mais tout parle ici. Goethe, le texte de Goethe nous le dit, la première rencontre est un échec et il faudra précisément à Faust le secours de Méphistophélès pour séduire Marguerite. Cette séduction et cette chute, eh bien, le tableau l'évoque. Car ce petit tableau qui peut paraître un peu pittoresque, un peu romanesque, un peu superficiel au premier plan, se charge d'un arrière-plan symbolique. On le perçoit sous le porche même de cette église ancienne, reconstituée donc hein, comme presque un décorateur de théâtre. Sous le porche rouge, lui aussi, de cette église ancienne, on aperçoit un calvaire, on aperçoit un Christ sur la croix, qui évoque le moment de Pâques, puisque c'est à ce moment-là précisément que Faust et Marguerite se croisent. Elle tient d'ailleurs un livre de prière. Cette crucifixion, évoque eh bien, un autre moment du destin croisé de ces deux jeunes gens, le moment de la chute précisément. J'y insiste parce que on a tendance à lire la peinture de Tissot de façon un peu superficielle pour sa séduction première, pour le soin avec lequel il fait revivre les temps anciens comme si nous pouvions y assister. C'est une modernité paradoxale. Elle rend présent le passé avant, et Tissot fera ce choix dans les années 60, avant de traiter le présent, avant de traiter la société contemporaine, notamment les mœurs de la société contemporaine, comme un historien du temps présent, pour employer une formule d'aujourd'hui. Alors, pour mieux souligner ce que Tissot doit à cet artiste un peu oublié ici, Hendrick, Henry Leys, je vous montre ici un exemple d'une des peintures les plus célèbres de ce mentor flamand, c'est la promenade sur les remparts. Vous voyez que dès 1854, Leys met en scène un couple, ici de jeunes amoureux, dans un contexte un peu ironique, un peu sarcastique. Ce sont les personnages à l'arrière-plan qui regardent la déambulation des jeunes gens, comme s'ils assistaient à cette éternelle flamme de l'amour. Et voyez comment Tissot répond presque terme à terme à la peinture de Leys, lequel Leys d'ailleurs est aussi le peintre de Faust. Il y a donc filiation et convergence à plusieurs niveaux. C'est le très beau tableau à gauche de Tissot. On s'aperçoit que Faust et Marguerite sont devenus plus familiers et que Faust se penche dangereusement sur la jeune femme, tel, dirions-nous aujourd'hui, un prédateur. Dès cette époque, c'est-à-dire le salon de 1861, il a, je vous l'ai dit, immédiatement convaincu l'administration impériale. Il se sent pousser des ailes, lui qui n'a pas... lui qui n'a pas encore voyagé en Italie, eh bien, il va faire un premier voyage très important, pas encore très très bien documenté, sinon par une lettre qu'il envoie à Degas. Et dans laquelle il lui dit quels sont les artistes qu'il a vus et copiés par de préférence à Florence et Venise, et notamment dans cette lettre très célèbre, il y a ce passage qui en dit long sur son goût pour le peintre dont je vais vous parler maintenant, qui est un des grands artistes, bien sûr, de Venise, de la Sérénissime. Voilà ce qu'il dit à Degas en 62. « Je suis dans les Carpaccio, et je n'en sors pas. » Effectivement, à l'Accademia, il va tomber sous le charme, autre coup de foudre, donc, des peintures de Carpaccio. Alors, Carpaccio, c'est très intéressant parce que il est perçu par les contemporains. Il suffit de lire, par exemple, les notes des frères Goncourt lors de leur voyage en Italie. Il est perçu comme le plus moderne, justement, celui qui peint les contemporains, celui qui peint ses contemporains, et notamment qui arrive à les peindre dans les cycles religieux. D'une certaine manière, il introduit une modernité dans l'évocation des vies de saints ou de saintes, c'est par exemple la légende de sainte Ursule, qu'il a à peindre en cette toute fin du XVe siècle. Et on ne peut pas ne pas comparer, par exemple, le tableau du Petit Palais avec lequel Tissot se montre au salon de 1863. À l'époque, les salons se tiennent tous les deux ans. 61, Faust. 63, le départ du fils prodigue. Tableau qui se trouve aujourd'hui au Petit Palais avec son pendant. On ne peut pas ne pas le comparer, bien sûr, avec la rencontre et départ des fiancés, la grande peinture vu par Tissot donc à l'Accademia, et dans laquelle il s'immerge. Il le dit, je n'en sors pas. Effectivement, il y a une sorte de paraphrase, au point d'ailleurs que certains critiques ne vont pas apprécier cette reconstitution archéologique, cette façon de singer Carpaccio. Je pense à Hector de Callias, qui en 61, avait salué l'arrivée de Manet et de son guitariste espagnol, de son chanteur espagnol. Voilà ce qu'en 63 il écrit. Enfin, il conseille à Tissot de regarder le calendrier, hein, de faire un peu moins vieux maître. Et il lui reproche donc de s'être lancé à la poursuite d'Holbein. D'une certaine manière, Callias se trompe de référence. Ce n'est pas tant Holbein, encore que. Il y a peut-être des choses qui viennent d'Holbein, que Carpaccio, que cette Venise rose et bleue dont il a saisi la poésie devant les tableaux du maître à l'Accademia de Venise. Et Paul Mantz, qui est un critique qui vient du romantisme, trouve que ces deux tableaux sont le triomphe du bric-à-brac, l'apothéose de la curiosité avec un C. Et la curiosité, en 1863, ça signifie avant tout le collectionnisme. Ça signifie avant tout ces gens qui ont la passion des vieilles choses, qui s'entourent de bibelots, qui bric-à-brac, comme le disait Balzac. Et il voit dans cette peinture donc quelque chose de très artificiel, le produit d'une passion finalement un peu viciée pour les maîtres anciens, et une peinture qui ne ferait appel qu'à ces amateurs de vieux tableaux. On s'aperçoit dans le détail qu'il y a là une vie, qu'il y a là parfois même une ironie, une causticité qui annonce le Tissot des années suivantes. Évidemment, ma transition a pour vertu de vous montrer que très vite, Tissot bascule dans ce que, en ce milieu des années 1860, on appelle la vie moderne. Baudelaire est toujours là, en 64, Delacroix vient de mourir, Manet fait parler de lui en 63 avec le déjeuner sur l'herbe, le salon des refusés, en 64 avec son grand Christ, ces scènes de tauromachie. Et il faut imaginer que Tissot avale tout ça. Tissot est le contemporain de ces scandales et de ce renouvellement brutal de la peinture impériale. Et voilà ce qu'il propose en 64, tout en montrant d'ailleurs des scènes qui relèvent de la peinture que je viens de décrire. Il propose des portraits ou des scènes de genre qui l'inscrivent dans ce nouveau courant, ce courant dont Manet n'est pas le seul représentant. C'est par exemple le très beau portrait de Mademoiselle LL, dont on n'a pas encore percé l'identité. Et mystère d'ailleurs qui répond au caractère un peu cavalier du tableau. Il y a un brin d'insolence, ou en tout cas un brin de liberté adolescente dans cette jeune femme assise sur une table. On découvre en regardant, en examinant de plus près le tableau, qu'il y a là un carton à dessin, des livres, une photographie peut-être coincée dans le cadre du miroir, et puis ce grand jupon noir, ce chausson, ce boléro rouge, tout ça bien sûr tranche sur l'image plus convenue des jeunes femmes dans leur domesticité. Nous avons affaire ici à un être plus libre, et qui sait, puisque le tableau ne dit rien, un être libre de mœurs. C'est ça aussi Tissot, très tôt, cette façon de maintenir en suspension le statut des personnages qu'il représente, voire même la nature même de la situation qu'il décrit. Mais on voit déjà quel coloriste il est, quel profit il a pu tirer de Venise, cette grande tache de rouge qui tranche sur le tissu noir. C'est bien sûr la marque d'un coloriste, et d'un coloriste, j'ai envie de dire, dans la tradition d'Ingres. Il faut réouvrir son Baudelaire pour se souvenir que Baudelaire a adhéré pleinement à la peinture d'Ingres, contrairement à la rumeur, et il a notamment, et il est peut-être le seul à l'avoir fait, adopté le colorisme d'Ingres. On a toujours pensé que Delacroix était le grand coloriste, puisqu'il harmonise, il mélange, il alterne, et que qu'Ingres, dans son goût du... dans son goût des contrastes, dans son goût des stridences, dans son goût des conflits presque, de ton et de teinte, Ingres ne serait qu'un teinturier, D'ailleurs, Baudelaire lui-même le dit, ça sent de temps en temps la petite couturière, à propos d'Ingres. Ce qui est une manière aussi de nous ramener à ce qui est très présent dans les tableaux, j'ai envie de dire, de reconstitution archéologique, comme dans les premiers tableaux modernes, c'est-à-dire la mode. La mode est une obsession des modernes. Baudelaire lui consacre un chapitre décisif dans Le peintre de la vie moderne, en 1863, les trois articles du Figaro. Imagine-t-on aujourd'hui Baudelaire qui pourrait écrire une telle chose dans Le Figaro ? Michel Houellebecq, peut-être ? Bref, on ouvre les colonnes du Figaro à Baudelaire pour vanter les vertus d'un peintre de la vie moderne, d'ailleurs, que toute l'époque appelle, Baudelaire le premier, mais qui ne viendra que plus tard, bien sûr, vous le savez. En tout cas, d'une certaine manière, Tissot, qu'il ait lu ou pas Baudelaire, répond à cet appel et va... Il faudrait peut-être cesser cette petite dispute, c'est très, très, très pénible. Il va en tout cas pleinement entrer en modernité au mi-temps des années 1860, et vous allez le voir d'une manière qui oscille entre le mystère et le sarcasme, l'humour et l'humeur. Mais il va aussi croiser, à défaut d'avoir croisé Baudelaire, il va aussi croiser, non pas cette japonaise, c'est pas ce que je voulais vous dire, mais le japonisme. On le sait, Degas, Manet, et tant d'autres, bien avant le monde de Toulouse-Lautrec, tombent sous le charme de ces estampes, de ces crépons japonais, comme le dira Van Gogh, bien avant l'exposition universelle de 1867, bien avant l'ouverture historique du Japon aux forces étrangères, et surtout la venue des Japonais en Occident, à l'exposition universelle, mais aussi dans les ateliers de peinture. Tissot, d'ailleurs, va donner des cours à quelques membres de la cour impériale du Japon. Il est, comme Degas, au plus près de cette veine esthétique qu'on appelle le japonisme. On en a ici une preuve un tout petit peu scabreuse. C'est un peu étonnant, je l'ai revu il y a quelques jours à Dijon, puisque le musée de Dijon vient de réouvrir. Ce tableau est à Dijon, dans une salle d'ailleurs qui contient deux autres tableaux de Tissot. Pour une raison que j'ignore, il ne viendra pas à l'exposition du musée d'Orsay. Est-ce que mes jeunes confrères de la conservation ont trouvé que ce tableau était un tout petit peu vulgaire ? Je ne sais pas, je leur poserai la question. Mais moi, il m'enchante. Il m'enchante à deux titres. D'abord, il vous prouve combien Tissot a le goût des japoneries, comme le disait Renoir, lequel d'ailleurs, en 1876, donc quelques années plus tard, exposera avec les impressionnistes un tableau montrant une jeune femme un tout petit peu moins dévêtue, mais signifiant à peu près la même passion japonaise. Et puis, il me semble que, quelle que soit notre opinion, quelle que soit l'impression que l'on ressent devant un tel tableau, effectivement un tout petit peu trop tapageur dans son érotisme, c'est à peu près, sauf erreur, le seul nu que Tissot ait jamais peint dans sa carrière. Et à ce seul titre, il aurait mérité de faire le chemin de Paris. Mais je vous l'apporte ici. C'est un tableau aussi brillant que ma diapositive, si j'ose dire, et qui sans doute dialogue avec l'imagerie des courtisanes japonaises, l'imagerie des geishas, qui circulent aussi. Le japonisme n'est pas simplement l'expression d'une admiration pour les kimonos, les estampes, les objets. C'est un mouvement qui est aussi fait de cette curiosité pour les mœurs japonaises. Et d'ailleurs, bien avant Pierre Loti, qui a écrit de très beaux livres, parmi les plus beaux d'ailleurs, sur le Japon, d'autres avaient cherché à comprendre, à connaître. Il y avait bien sûr quelque chose qui fascinait dans la sexualité des élites japonaises, et des photos ont nécessairement circulé. Il se peut que la causticité dont je vous parle depuis le début de Tissot se soit emparée de ces photographies pour en donner finalement un équivalent pictural très fort. Il y a dans la peinture de Tissot une puissance formelle, une puissance chromatique indéniable, mais aussi, comme ici, un humour. Car on le sait par ailleurs, à travers toute une documentation qui est souvent très drôle, c'est un chineur, pardonnez-moi, il n'y a pas l'équivalent pour le japonais, un chineur terrible de tout ce qui touche au Japon. Il y a une lettre très amusante d'un peintre anglais, Rossetti, Dante Gabriel Rossetti, un des maîtres du pré-raphaélisme anglais, et qui bien sûr connaît Tissot, parce que dès cette époque-là, l'Angleterre a un œil sur Tissot, sur ce peintre qui a anglicisé son prénom, James. Eh bien, Rossetti, dans une lettre, dit qu'il a cherché, il est à Paris. Rossetti a fait quelques séjours à Paris, il a vu Manet, il a vu Whistler et tant d'autres. Et il dit qu'il a cherché à se procurer des kimonos, des objets, toutes sortes de japonaiseries, mais qu'il est passé chez Madame Desoies, non, je ne connais pas la boutique, après Tissot, et que Tissot avait tout raflé avant qu'il ne passe. C'est dire qu'il y a une lutte sur tous les terrains entre les artistes de part et d'autre de la Manche à cette époque. Et d'ailleurs, puisque nous parlons de l'Angleterre, dans cette ville très anglophile qu'est Bordeaux, j'espère qu'elle est restée malgré Boris, eh bien, Tissot expose dès cette époque à Londres, et il donne même dans le livret du salon de 1864, l'exposition donc où il envoie le portrait de Mademoiselle L.L., il donne même une adresse londonienne, une adresse parisienne, une adresse londonienne. L'adresse londonienne, d'ailleurs, correspond à celle d'un artiste anglais. C'est dire que bien avant le début des années 70, il a mis un pied sur le marché anglais et il entend bien y demeurer. C'est la raison pour laquelle la plupart des tableaux que je vais vous montrer ne sont pas restés longtemps en France. C'est par exemple le confessionnal du salon de 65, le salon d'Olympia, tableau que Gautier vante pour sa haute distinction. Il note aussi, le même Gautier, la qualité, la délicatesse avec laquelle Tissot a représenté les vêtements de la dame, cette parisienne, cette coquette, qui n'a pas su, au fond, abandonner sa coquetterie pour aller se confesser. La situation est bien sûr assez cocasse, et toute la presse la souligne. Et Gautier dit, il y a là quelque chose qui me rappelle la vie parisienne, qui était une sorte de revue d'actualité mondaine, dans laquelle on trouvait, j'ai trouvé beaucoup de choses d'ailleurs en feuilletant la vie parisienne, dans laquelle on trouvait des articles sur la littérature, sur les expositions du temps, au salon comme en marge du salon, mais aussi des articles consacrés à la mode. C'est un peu l'ancêtre de ce journal morné de Mallarmé, La Dernière Mode. Mallarmé aura tenté, après la guerre de 70, de relancer un peu ce type de publication à curiosité multiple. Et le confessionnal nous montre comment, dans une situation qui n'appelait pas un déferlement vestimentaire. Tissot, avec une sorte d'ironie un peu insistante ici, eh bien, introduit la mode dans le lieu du culte. Les années passant, et le succès au salon et ailleurs se renforçant, eh bien, l'aristocratie, la gentry française, va s'intéresser à lui. D'abord parce qu'elle est anglophile, la gentry française. Elle aime, chez cet artiste, cette manière anglaise. Et si je le dis, c'est que Degas lui-même, plus tard, dans sa correspondance avec Tissot, va insister sur leur goût commun pour les choses anglaises. Et il se trouve dans les dessins de Tissot, en Angleterre, un dessin qu'il a dédié au peintre Millet, non pas notre Jean-François Millet à nous, d'ailleurs qu'il faut prononcer Millet, mais Millet, M-I-L-A-I-S. Là encore, preuve que Tissot a noué des liens non seulement avec le marché, la maison Agnew par exemple, mais aussi les peintres pré-raphaélites, et notamment Millet, qui de tous les pré-raphaélites est celui qui va se tourner le plus vite vers le portrait de société, qui va changer son fusil d'épaule dans les années 1860, et il s'est sans doute trouvé des occasions pour que ces deux artistes se croisent ou s'écrivent. En tout cas, c'est la manière anglaise que l'aristocratie française attend de Tissot dans la représentation de ces acteurs comme de la vie de château, si j'ose dire, qui leur est associée et qu'ils aiment à exhiber dans les grands tableaux qu'ils commandent à Tissot à la fin du Second Empire. L'un des plus célèbres est entré dans les collections, il y a quelques années. C'est ce portrait du marquis et de la marquise de Miramont. Quand je parle de la vie de château, je pensais bien sûr à celui-là notamment, puisque nous avons l'évocation d'une terrasse, d'un parc, mais aussi grâce au chien, un peu qui renvoie presque à l'héraldique ancienne, ou en tout cas aux habitudes de la grande peinture de la Renaissance, il y a là tout un programme. Et Tissot parvient justement, le plus naturellement du monde, à rendre ses emprunts à la peinture anglaise, à la peinture ancienne, mais aussi les attentes de ses commanditaires. Il rend tout ça de façon séduisante, mystérieuse, singulière. Rien de convenu dans la représentation des élites sociales chez Tissot. Et comme il se doit, puisque toute peinture est genrée, nous dit-on, la dame qui avait apporté la fortune à René de Cassagne de Beaufort, lequel était un aristocrate et comme tout bon aristocrate avait des besoins d'argent, elle venait avec l'argent du Nord, l'argent des mines. C'était une mademoiselle Feuillant. Eh bien, je ne sais plus ce que je voulais vous dire à propos de ces deux-là. Oui, pardonnez-moi, je parlais de peintre genré. Oui, avant de vous parler du couple, je voulais vous parler des enfants eux-mêmes. Eh bien, la dame tient une petite fille et le petit garçon est représenté au pied de son papa, comme dans les tableaux du XVIe ou du XVIIe siècle, qui entendaient insister précisément non seulement sur la solidité de la vie familiale, mais sur sa pérennité à travers les garçons. J'ai beaucoup parlé de Degas et un peu de Manet. Vous attendiez peut-être de voir ce tableau très célèbre du Met, et qui est, autant que la fameuse lettre que Tissot envoie à Degas en 1862, la preuve de leur complicité. C'est un magnifique tableau qui est une allégorie également de leur goût commun pour la peinture ancienne et pour le japonisme. Il y a d'abord au centre cette œuvre qui est soit un original, soit une œuvre d'atelier, soit une copie d'après Cranach l'Ancien. Cranach l'Ancien, Holbein, vous voyez, dans quel mouchoir se tiennent les prédilections esthétiques de Degas et Tissot à cette époque-là. Tissot lui-même se montre à nous avec la désinvolture d'un dandy parisien. Il est habillé de gris et de noir, comme un Manet. Il tient son stick. Le chapeau n'est pas très loin, le par-dessus non plus. Il vient d'entrer dans un atelier qui est peut-être celui de Degas, qui est plus certainement un atelier imaginaire, comme Degas aime à les représenter, lui qui se veut réaliste, mais qui sait que le réalisme est aussi une peinture d'imagination. À travers cet atelier, il indique les orientations de la nouvelle peinture. On y voit autour de Cranach, réaliste à l'ancienne en quelque sorte, un tableau qui semble très japonais, dans la partie supérieure du portrait, des musiciennes, des geishas, des courtisanes, qui sait. Tableau qui n'a peut-être jamais existé que dans l'esprit de Degas, mais qui indique bien le goût qu'ils avaient tous les deux pour le Japon, son art et sa civilisation. Et puis, à droite, une scène de la vie moderne, comme on en trouve chez Degas et chez Manet, son ami Manet, car c'est à ce moment-là, au début des années 1860, que Manet et Degas se sont croisés au Louvre, devant les Velázquez, que tous les deux chérissaient. Vous voyez comment se constitue, à la manière dont les choses se passaient dans les ateliers et dans la vie de l'art de l'époque, eh bien, ces relations, ces liens, ces liaisons. La photographie de Tissot, qui date normalement de la même époque que son portrait, vous indique aussi qu'il a non pas seulement une haute opinion de lui-même, mais gravit les échelons beaucoup plus vite que ses deux amis, et qu'il utilise ses cartes-visites photographiques pour répandre l'image d'un jeune homme élégant, sûr de lui, déjà réputé, et qui ne cessera jusqu'à sa mort d'étendre son succès, d'étendre sa clientèle de part et d'autre, donc de la Manche. L'autre grande image qui consacre ce succès, c'est le Cercle de la Rue Royale, entré dans les collections d'Orsay grâce au succès de l'exposition Monet au Grand Palais, puisque le produit de ces ventes, de ces billets d'entrée, a permis à Guy Cauchevald d'acheter ce tableau dont rêvait déjà Françoise Cachin quelques années avant lui, et qui était resté dans la famille Autingre, laquelle détenait l'œuvre depuis que l'un de ses ancêtres avait commandé l'œuvre à Tissot, puisque c'est une commande collective. L'œuvre avait été ensuite tiré au sort, plus exactement son propriétaire. Et c'est la famille Autain qui s'était vue remettre la grande composition qui, bien sûr, est pour nous la preuve définitive du succès mondain de Tissot, mais surtout de sa grande capacité à renouveler entièrement le portrait de société, voire même le portrait collectif. Vous pensez, bien sûr, ici à ces grands portraits de groupes qui viennent de la Renaissance et du XVIIe siècle, mais aussi, et je vais vous en donner tout de suite la preuve, à l'imagerie de mode qui est de plus en plus prégnante dans la société contemporaine à travers les journaux illustrés. Certains d'entre vous, j'en suis sûr, ont vu l'impressionnisme et la mode, exposition qu'avait voulu d'ailleurs Guy Cauchevald il y a quelques années à Orsay, et qui rappelait combien cette imagerie de presse avait contaminé, envahi la peinture, laquelle peinture d'ailleurs tirait profit de cette proximité pour mieux plaire, pour mieux séduire aux éventuels commanditaires des 10 portraits. Alors, il faudrait presque une séance pour vous parler de chacun des personnalités représentées dans ce tableau. Je vous renvoie à la littérature, j'ai moi-même un peu écrit sur le sujet, car il y avait là plusieurs mystères. Le cercle de la Ligue royale était plutôt légitimiste à sa création. Il va se recentrer, et voire même faire alliance avec le régime du sabre, avec Napoléon III. Il y a parmi ces élégants, ces personnalités distinguées de l'élite parisienne, des fonctionnaires, si je puis dire, de l'Empire. En tout cas, il y a parmi ces commanditaires du tableau des hommes qui s'étaient ralliés ouvertement donc, au Second Empire. D'autres représentaient la plus ancienne aristocratie. Je pense notamment à Polignac, que l'on voit tenant un livre sur Louis XVII, tout un programme, et à d'autres encore. Ce qui importe à Tissot, c'est de les réunir, c'est de montrer à travers eux une sociabilité particulièrement sophistiquée, un moment aussi, sans doute, de l'excellence de la culture française qui passe par le grand soin vestimentaire avec lequel tous ces hommes se présentent à nous. Le Constitutionnel, le journal froissé à gauche, que semble regarder le Dalmatien, si Dalmatien il y a, renvoie aussi à le Constitutionnel, c'était justement un journal d'opposition feutrée, et le fait qu'il soit présent ici, froissé, comme rejeté, relégué, indique que ce grand tableau a également une composante politique. En tout cas, vous noterez que cet architecte manqué qui était Tissot savait particulièrement bien exploiter, ici c'est la colonnade d'un des deux grands pavillons de Gabriel sur la place de la Concorde, savait très bien exploiter ces éléments d'architecture pour à la fois fixer un espace, mais aussi ici exalter une sorte de grandeur française qui se serait continuée à travers les différents personnages que le tableau nous montre. Je vous parlais de la presse de mode, vous en avez ici plusieurs exemples, notamment de ces analogies, très très intéressantes, presque intrigantes, entre le tableau lui-même et les poses, les attitudes, la façon dont s'organise même plastiquement le grand tableau d'Orsay. D'autres gravures, tirées d'ailleurs de La Vie parisienne, ce journal que Théophile Gautier citait à propos du confessionnal. Et il m'a suffi donc de consulter cette revue Capital en ligne désormais sur le site de l'INHA pour retrouver des ports de tête, une façon de tenir sa canne, son chapeau. Il fallait absolument que le tableau réponde parfaitement à la façon dont les vêtements, les accessoires de la mode étaient portés et comment ils signifiaient dans la société donc, de la fin du Second Empire. Cette fin du Second Empire, turbulente, très agitée politiquement, d'autant plus que, comme vous le savez, l'empereur va, comme on le dit dans les livres d'histoire, libéraliser le régime aux grandes dames de l'impératrice, mais à la grande joie de la princesse Mathilde, laquelle collectionnait la peinture de Tissot. Tissot lui-même va creuser, et toujours plus, son succès des deux côtés de la Manche, avec des tableaux dont on ne sait pas très bien d'ailleurs s'ils représentent des sujets français ou des sujets britanniques. Il joue de cette ambiguïté. C'est notamment cette admirable jeune femme en bateau, avec le bulldog impayable, qui évoque peut-être le monde de nous autres, les hommes. Ici réduit donc à un chien de compagnie. Et puis il y a cette jeune femme, dans l'attitude de la mélancolie, mais qui ne semble pas si mélancolique que ça. qui semble plutôt exhiber une sorte d'assurance dans la séduction, peut-être même un appel. Nous sommes dans un monde aussi mi-terrestre, mi-aquatique, un monde flottant, et peut-être que ce flottement renvoie à l'ukiyo-e, l'estampe japonaise, le monde précisément, des images flottantes et des mœurs flottantes. La végétation contraste avec la beauté de la jeune femme, mais aussi la beauté des soieries, la beauté des vêtements. Tissot adore ce genre de contraste, adore ce genre de conflit, de rapprochement, et nous laisse aussi dans l'énigme. Que faut-il penser de ce que nous voyons ? Nous ne le saurons jamais. La seule chose qui semble certaine, c'est l'assurance avec laquelle cette jeune femme s'impose à notre attention et entendait s'imposer à l'attention des contemporains qui croisaient cette peinture dans les galeries ou au salon. Et puis, avant de voir s'écrouler, de voir s'effondrer le Second Empire, Tissot rend hommage au tableau qui avait déstabilisé tout le milieu de l'art quelques années plus tôt, dans cette partie carrée, achetée récemment, il y a quelques années, par le Musée des Beaux-Arts du Canada, et qui dialogue avec le tableau de Manet. La partie carrée, c'était d'ailleurs l'expression qu'utilisait Manet pour désigner le déjeuner sur l'herbe. Le terme, d'ailleurs, renvoie à ce que la composition de 1863 avait de légèrement révoltant au regard des mœurs ou de libre au regard des conventions de la peinture de salon. Tissot plonge, plus prudent que Manet, plonge la composition dans un passé récent, c'est peut-être une scène du directoire, c'est peut-être emprunté au mode de l'Angleterre de la fin du 8e siècle. Du reste, comme vous le savez, le règne de Louis XVI et toute la fin du 8e siècle est particulièrement anglophile. Et donc, pour Tissot, les modes des merveilleux et des merveilleuses, la mode tirée de Gainsborough ou de Reynolds, tout ça, finalement, appartenait à la même esthétique, esthétique à laquelle il était d'ailleurs esthétique et période auquel il était particulièrement attaché. On voit en tout cas comment Tissot intègre une donnée un peu scabreuse dans un scénario plus acceptable, mais le tableau brille tout de même par cette intensité de vie qu'il met en tout. Là, il faut rapidement, je vous rassure, ouvrir un chapitre intéressant de la biographie de Tissot et qui vient de s'éclairer sous un jour nouveau grâce à l'exhumation des documents dont je vous parlais. On a longtemps pensé que Tissot, comme Manet et Degas, avait fait son devoir, avait rejoint la garde nationale, avait monté la garde, comme tout un chacun, enfin, pas tout un chacun, vous le savez, certains ont fui la capitale, Monet, Pissarro, Zola. Lui, il voulait se battre. C'est un patriote. Et il a assisté, comme Manet, comme Degas, à différents événements, tous plus terribles que les uns que les autres. Il a connu la faim, il a connu la souffrance, il a connu l'attente, le froid de ces milliers de centaines de milliers de Français qui étaient restés donc à Paris et qui avaient vécu tant bien que mal le siège. Et il y a chez Tissot toute une imagerie superbe en général et juste liée à cette époque. Ce que l'on vient de découvrir, c'est que ce patriote se doublait d'un républicain beaucoup plus convaincu qu'on ne le pensait et qu'il n'a pas quitté la capitale après l'armistice et avant la Commune, et qu'il est resté à Paris jusqu'à la semaine sanglante, dont un dessin, vous allez le voir, témoigne. Alors, on n'arrive pas encore à mesurer le degré de républicanisme. On n'arrive pas à mesurer le rôle qu'il a pu jouer dans le processus de la Commune. Son nom n'apparaît dans aucun document lié à la politique culturelle de la Commune, contrairement, par exemple, à celui de Courbet. Il reste un mystère. Quelle a été son attitude, quel a été son degré d'adhésion à la violence communarde. Manifestement, il a été choqué par l'ultra-violence de la semaine sanglante des deux côtés. Il a voulu d'ailleurs en témoigner. Et on l'espère tous, on espère un jour découvrir des lettres, des documents qui préciseront l'attitude, la pensée même, les interrogations de Tissot. Vous savez que la correspondance familiale de Manet nous permet de nous prononcer sur le cas de Manet. Manet a vu à travers le siège et les débuts de la Commune une expérience politique intéressante, mais il quitte Paris au moment de l'armistice et il désapprouve nettement la Commune. Son frère, le plus jeune des frères Manet, lui reste et tente jusqu'au bout de réconcilier les irréconciliables. Tissot a assisté à tout ça. Il a même croisé à Paris des représentants de la presse anglaise. La vie à Paris pendant le siège est une chose tout à fait étonnante. Tout à fait étonnante. On imagine une ville réduite au silence, et bien non, il y a là d'abord des moyens de communiquer avec l'extérieur, mais il y a là aussi des représentants de la presse, et notamment de la presse londonienne, pour laquelle Tissot, d'ailleurs, avait commencé à collaborer, à travailler dès avant Sedan, dès avant le siège. J'en veux pour preuve cette image montrant un Napoléon III très diminué. Nous sommes en 1869 pour Vanity Fair. Vanity Fair existait déjà, c'était tout autre chose que la Vanity Fair d'aujourd'hui. Et puis, à côté, un dessin qui est revenu sur le marché de l'art il y a peu de temps, merveilleux dessin montrant un jeune homme, quasiment un enfant, hein, sous uniforme, et blessé donc pendant le siège. De l'une à l'autre, on voit comment les choses se sont précipitées autour de 1870 et comment Tissot a voulu, oubliant ici Faust et Marguerite, oubliant les belles jeunes femmes de la vie parisienne, témoigner de cette réalité. En peintre d'histoire. Je dois dire que lorsque j'ai découvert l'image de droite, cette exécution des communards dans une exposition organisée par Christophe Le Ribaud il y a de cela 2 ans sur les impressionnistes à Londres, je n'ai pas cru à l'attribution, je n'ai pas cru à la proposition qui était faite par le musée, donc d'y voir une aquarelle de Tissot, rendant compte donc de la semaine sanglante, rendant compte des exécutions sommaires de la semaine sanglante. Il se trouve que mes camarades, commissaires de l'exposition que vous verrez bientôt, ont découvert tout récemment des dessins préparatoires pour cette aquarelle, qui donc nous permettent de l'attribuer avec certitude à James Tissot. Elle est d'ailleurs extraordinaire. Cette aquarelle, on dirait une sorte de on la dirait presque de redon. On a l'impression d'assister à une sorte de cauchemar où il y a quelque chose de très moderne dans ce grand mur aveugle, dans ces corps que l'on jette comme ça et qui s'amoncellent dans l'herbe au pied de cette surface aveugle. C'est très saisissant et c'est la façon dont Tissot a voulu saisir l'histoire et saisir ceux qui, plus tard, découvriraient la réalité des événements à travers ses propres œuvres. Même chose, même saisissement devant les gravures qu'il va tirer des dessins qu'il exécute pendant le siège ou au lendemain du siège. C'est notamment ce premier mort que j'ai vu et le fait qu'il intitule ainsi cette image, comme s'il prenait la parole, montre qu'il a voulu en faire une image de témoignage, qu'il a voulu faire œuvre d'historien en montrant ce corps, cet homme abattu, comme un chien, d'une certaine manière, face contre terre, au pied des remparts. C'est une œuvre saisissante. Vous voyez que ce Tissot, capable de toutes les séductions, capable de toutes les formes de suggestions érotiques, de toutes les sensualités possibles, est aussi l'homme de la vérité la plus crue. Raison pour laquelle Degas ne se décourage pas, et tente, au début des années 73-74, de le faire revenir à Paris. Car Tissot quitte la capitale après la semaine sanglante, on ne sait pas très bien quand, à l'été, on sait qu'à l'automne, il est déjà à Londres. S'il est parvenu à s'installer si vite et à faire souche pendant presque 10 ans en Angleterre, c'est, comme je l'ai dit, qu'il a préparé le terrain. Il y est attendu, il y est connu, il y a des marchands, il y a des collectionneurs. Ses prix sont déjà très élevés à Londres et sa peinture y est déjà exposée. Il lui faut maintenant conquérir la Royal Academy, l'équivalent du salon, et il va le faire dès 1874. Au préalable, Degas lui écrit à plusieurs reprises, et je regarde ma montre pour savoir si je peux vous en lire un passage, je vais essayer de le faire rapidement, parce que cette lettre me semble justement très significative, non seulement du ton qu'employait Degas dans sa correspondance, mais de l'espèce de connivence qui s'était nouée entre les deux artistes. Voilà ce que, par exemple, il lui écrit en février 73. Rappelez-vous l'art des Lenains. Il parle de l'art qu'il faut finalement produire dans la France de l'après-guerre et de l'après-commune. Rappelez-vous l'art des Lenains et tout le Moyen-Âge français. Notre race donnera quelque chose de simple et hardi. Le mouvement naturaliste dessinera comme les grandes écoles et on reconnaîtra alors sa force. Il y a bien souvent comme l'exploitation d'un truc dans cet art anglais qui nous plaît tant. On peut mieux faire que et aussi fermement. Et puis, quelques semaines plus tard, au moment où se monte la première exposition impressionniste, dont Degas sera, bien sûr, un des grands frissons, il lui dit « Montrez-vous à Paris, car les gens parlent, pensent que vous avez fui la capitale. » Et finalement, effectivement, on pense que, désormais, que Tissot, en raison même de son séjour prolongé à Paris pendant le siège, passe pour communard. Et la lettre de Degas se conclut de la manière suivante. Il doit y avoir un salon réaliste. Le salon réaliste, pour Degas, ce sont les expositions impressionnistes. Eh bien non, Tissot résistera à son ami Degas, il n'exposera pas avec les impressionnistes, il exposera la peinture de Degas, où il contribuera à l'exposition de la peinture de Degas à Londres, il exposera des tableaux de Manet dans la belle maison qu'il se fait construire à St. John's Wood, dans le quartier de Saint-Pancras, maison avec portique, jardin, bassin, puisque l'argent afflue, et il accueillera les artistes français de passage. Il y a un très célèbre passage, justement, dans la correspondance de Berthe Morisot, fasciné par le luxe que Tissot déploie dans sa maison et au luxe même de l'accueil qui est fait aux peintres, collectionneurs et marchands de passage. Berthe Morisot dit qu'il y avait toujours du champagne qui rafraîchissait. Plus rapidement, pardonnez-moi, voyons quelques images de cette seconde carrière qui s'étale entre 1871 et 1882, vous comprendrez pourquoi. Il va faire entrer la société anglaise contemporaine dans ses tableaux, la mode, la séduction féminine, les quiproquos de l'amour ou de la vie de couple. Bref, il va devenir un peintre des mœurs contemporaines, un peu limite parfois, comme on le dirait aujourd'hui, et la presse anglaise aime à souligner les audaces avec laquelle Tissot dévoile ce qu'il ne faudrait pas toujours montrer du commerce entre les hommes et les femmes. Par exemple, ici, le bal sur un bateau, grande et prodigieuse galerie de robes, de couples, de regards qui s'échangent. Même chose ici avec la galerie de ce bateau, le Calcutta. Je parle sous le contrôle de mon ami Siama, le nouveau directeur du musée des impressionnistes de Giverny, qui pense qu'il y a un petit jeu de mots dans Calcutta. Je vous le laisse le découvrir, mais je me permets tout de même, pour vous mettre sur la voie, de rapprocher le tableau d'un de mes tableaux préférés de Boilly, qui, si je veux dire, exploitait déjà de la même manière certaines rondeurs. La Tamise, tableau qui fait jaser en 1875, parce qu'on trouve que ce jeune homme et ces deux jeunes filles témoignent d'une liberté, témoignent peut-être de mœurs pas nécessairement irréprochables. Par ailleurs, la presse anglaise est sensible aussi à la construction du tableau, la construction un peu japonisante, cette façon de cadrer la scène, de ne montrer qu'une partie de l'embarcation sur laquelle marivaude un marin et deux jeunes femmes. C'est peut-être une de trop, d'une certaine manière, pour les critiques anglais. Je rapproche ce tableau via la gravure qu'en tire Tissot et qu'il montre au salon de 1876 d'une célèbre composition de Caillebotte, que Caillebotte expose à l'exposition impressionniste de 1979. Il se peut très bien qu'il ait vu au salon la gravure que Tissot avait tirée de sa propre composition. La Tamise, c'est tout un monde, c'est le monde de Le Gros, c'est le monde de Whistler, cher à Baudelaire, qui a tant écrit sur les gravures de Whistler, et notamment ces gravures où Whistler avait croqué les bords du fleuve, l'activité maritime du fleuve. Tissot sait tout cela. Tissot est très proche de Whistler, et il intègre donc à ces nouvelles compositions faites pour plaire au public anglais toutes sortes d'ingrédients capables de faire, justement. Dans les docks de Portsmouth, il traite la même scène. Le marivaudage renvoie ici aux scènes de séduction chères à la peinture française du XVIIIe siècle, ou chères même à une certaine illustration. C'est aussi cela, Tissot, la capacité de faire entrer dans la grande peinture eh bien, des éléments de langage qui viennent de l'illustration, qui viennent de la petite presse. Et on retrouve tout de même ici l'audace avec laquelle il sait évoquer tout un monde, le monde de la Tamise, justement, à partir de quelques éléments. Entre dans sa vie cette jeune femme qui fait fantasmer toute l'histoire de l'art depuis quelques années, Kathleen Newton, jeune divorcée, fille-mère, femme-mère, bref, une personne, une sorte de outcast dans la société londonienne, et que Tissot va prendre sous son aile. Il se peut même qu'il soit le père du petit garçon qui va naître en 1876. Tissot, qui est pourtant au plus près et totalement apprivoisé et accepté par la société londonienne, se sent capable justement de déroger à la règle en faisant venir vivre Kathleen Newton dans cette maison si belle qui avait fasciné Berthe Morisot. Et cette maison d'ailleurs, ce parc, cette végétation, ce luxe, on le perçoit dans les images qu'il a laissées de Kathleen Newton, toutes plus belles les unes que les autres. Cette jeune femme, hélas, était atteinte de la tuberculose, elle va disparaître très vite, et Tissot ira jusqu'à peindre justement les derniers moments, l'agonie de sa chère Kathleen, tout en maintenant dans ces images un peu lugubres eh bien le pouvoir de séduction qui était le sien. Voici octobre, toujours au musée de Montréal, avec cette jeune femme qui semble eh bien, passer, comme le dirait Baudelaire, quitter le champ de la peinture et se retourne une dernière fois vers nous, lançant vers le spectateur un regard plein de promesses. Ce qui est aussi très intéressant à noter, c'est le fait que la plupart des tableaux, une partie des tableaux en tout cas de cette époque-là, repose sur toute une documentation photographique. Tissot photographie ou fait photographier Kathleen sous toutes ses coutures. Pardonnez-moi l'expression, mais elle convient à cette jeune femme qui était elle aussi une sorte de gravure de mode vivante. Le très beau tableau du musée d'Orsay, Evening, qui devient le bal, là encore un très beau mouvement auquel contribue la robe jaune qui vient tourner comme ça au premier plan du tableau, et dont un critique anglais avait dit que c'était « worthy of Worth », digne de Worth, le grand couturier parisien, je crois, de la rue de la Paix. Ce jeu de mots nous montre que l'une des causes du grand succès de Tissot repose toujours sur la séduction qu'il emprunte à la mode vestimentaire et à la façon dont cette mode exalte la beauté des jeunes femmes qui l'exhibe. Voilà une image à la fois plus tendre et en même temps plus mélancolique des derniers moments de Kathleen qui va disparaître en 1882. C'est la date, bien sûr, du départ, cette date qui marque la carrière et la vie profondément donc, de Tissot. Il va quitter Londres, où il conservera d'ailleurs des intérêts, une maison, des collectionneurs, des marchands, mais il décide de quitter cette ville puisque Kathleen elle-même, Kathleen Newton, a quitté la vie. Un cycle, peut-être le dernier cycle d'ailleurs, où il a fait entrer à plusieurs reprises sa grande passion amoureuse. Elle est là au premier plan à gauche, en train de coudre. C'est cette parabole de l'enfant prodigue. Vous rappelez le tableau de 1863, dans un contexte moyenâgeux, entre Carpaccio et Holbein. Et là, nous sommes dans le Londres, au contraire, le plus contemporain, près de la Tamise, avec ce jeune homme qui, après avoir réclamé sa part d'héritage, veut connaître la vie, se jette dans l'inconnu et prend le chemin qui le mènera jusqu'à la misère, jusqu'à la plus extrême même, le plus extrême dénuement. C'est toute la parabole, bien sûr, de Saint-Luc, et qui se termine par l'accueil chaleureux du Père, bien sûr, qui ne peut pas recevoir son fils après les mésaventures qu'il a connues. Les mésaventures, vous voyez comment Tissot les peint, c'est cette très bonne ronde de geisha. Nous sommes dans le monde de la prostitution japonaise, et ce nocturne extraordinaire, je vous assure que peu de peintres étaient capables de tels effets à l'époque, est une sorte d'allégorie à soi seul. C'est la nuit des tripots, c'est la nuit de la prostitution, eh bien, qui descend sur l'enfant prodigue. Et puis c'est les retrouvailles sans doute dans le souvenir d'un des plus beaux tableaux de Rembrandt. Ceux qui l'ont vu à l'Ermitage le savent, l'œuvre fatale du dernier Rembrandt, peut-être connue de Tissot, qui, il le prouverait ici, avait toujours donc un goût pour la peinture du Nord. Il me reste trois images à vous montrer, rassurez-vous. Mais trois images qui vont sans doute vous surprendre, je l'espère en tout cas. D'abord, c'est les deux premières, je l'ai déjà évoqué. La formation religieuse de Tissot avait été très soignée. Et il se peut même qu'il y ait chez lui, parfois, un peu de critique à l'égard d'une certaine coquetterie, à l'égard de certaines mœurs, à l'égard du monde contemporain, à l'égard d'un monde où même la beauté, la séduction se vendent. Et il aura fallu la mort de Kathleen Newton, il aura fallu qu'arrive la cinquantaine pour qu'il décide donc non seulement de quitter Paris, de quitter ce monde où il vit comme un nabab, pour se rendre en Terre Sainte. À la manière d'ailleurs de certains peintres anglais, pensez à Hunt et d'autres, et pour découvrir le monde qui avait vu surgir le Christ et le christianisme. Un peu comme Renan en avait fait l'hypothèse dans son fameux livre de 1863, La vie de Jésus. Il s'agit de comprendre à travers les mœurs contemporaines ce qu'avait pu être le contexte d'émergence du christianisme. Et ces aquarelles ethnographiques, en quelque sorte, il va les multiplier jusqu'à parvenir à en produire plusieurs centaines qu'il va exposer en Angleterre, en France, aux États-Unis, et c'est le musée de Brooklyn qui finira par les acheter au tout début du XXe siècle. Ces aquarelles, d'ailleurs, donneront lieu à un livre, et c'est l'éditeur religieux, MAM, qui va tirer, comme Tissot lui-même, le plus grand profit de ce livre. Les derniers moments, d'ailleurs, de Tissot seront consacrés, après cette vie de notre Seigneur, pour employer le titre de cet ouvrage, à une illustration de l'Ancien et du Nouveau Testament. Bref, un dernier moment très religieux, très habité par la pensée du Christ et les valeurs du christianisme. Là aussi, on aimerait en savoir plus sur le personnage, mais toutes sortes de documents, de photographies, ses séjours répétés en Terre Sainte prouvent qu'il y avait là une façon, une manière d'authenticité, de sincérité. Il continue à être le peintre audacieux que l'on aime. Regardez comment il imagine ici le Golgotha. C'est le Christ qui nous regarde depuis la croix. Ce que notre Seigneur vit depuis la croix, c'est effectivement une chose très audacieuse que se permet le dernier Tissot, donc dans ce moment presque de retrouvailles avec la religion de son enfance. Et puis il y a cette image qui sera ma dernière et qui est peut-être celle sur laquelle Tissot lui-même aurait souhaité qu'on s'arrêtât, cette apparition étonnante, car Tissot n'a jamais pu faire le deuil de Kathleen Newton. Il l'a eu, et Edmond Goncourt nous le dit dans son journal, d'autres aventures, d'autres amourettes. Mais Kathleen Newton est restée l'unique, le grand amour, et dès sa disparition, il va consulter des spirites, il va assister à des séances en Angleterre, à Paris. Il va tenter donc de faire revenir en esprit Kathleen Newton, et il va peindre finalement ses retrouvailles dans ce tableau unique dont il a tiré une gravure au noir à la manière anglaise, aussi belle que la peinture elle-même. Et on a l'impression de retrouver ici le Tissot des premiers temps, celui qui tentait de ramener à la vie le passé de Faust et Marguerite. Et c'est ici, eh bien, cette jeune femme disparue à moins de 40 ans qu'il ressuscite. Et d'une certaine manière, si cette exposition est une résurrection, on peut dire que Tissot est aussi l'homme des résurrections. Merci à vous.